La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous invoquons notre Dieu. Nous louons le Seigneur. Ô Dieu, comment pouvons-nous te louer ? Tu dépasses tout nom. Quelle louange pourrait être digne de toi ? Aucun mot humain ne peut bien parler de toi. Tu es au-delà de ce que nous pouvons voir et entendre, au-delà de ce que nous pouvons comprendre et croire. Au-delà de ce que nous pouvons dire et chanter. Et tu es aussi le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En lui, tu t'es approché de nous, en lui, tu t'es caché pour te faire connaître, en lui, tu t'es abaissé pour nous élever vers toi, en lui, tu as pris notre mort pour nous donner ta vie. Et avec lui, tu nous donnes l'Esprit Saint, pour que nos intelligences limitées s'ouvrent à ta lumière, pour que nos cœurs hésitants croient à ton amour, pour que nos voix balbutiantes osent t'appeler, pour que nos vies décevantes portent ta présence. Toi, le très haut et le très proche, nous te louons en Jésus le Christ, ton Fils. Et dans la confiante audace que nous donne ton Saint-Esprit. Amen. Chantons le psaume 36, les trois strophes de ce psaume 36. Bienvenue chacun, chacune, fidèle de ce lieu ou de passage. Nous sommes rassemblés en présence du Seigneur et il nous faut voir plus loin que ce que voient nos yeux. Avec nous sont entrés dans ce temple tous ceux que nous aimons, tous ceux pour lesquels nous avons du souci, tous ceux avec qui nous avons des relations difficiles, ceux qui pourraient y être et n'y sont pas. Et avec nous, c'est le monde entier, tout simplement parce que le Seigneur est venu aussi pour eux et parce que nous les portons dans nos cœurs et notre prière, en communion avec les chrétiens qui sont assemblés dans le monde, en communion avec toutes les générations de croyants. Et nous écoutons maintenant ce que le Seigneur attend de son peuple. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui resteront gravées dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en route. Et suivant l'apôtre Paul s'adressant aux Galates, quant à vous, c'est-à-dire nous, vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'Esprit pour aimer vos prochains. Car il était dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Humblement, nous prions pour présenter à Dieu nos vies, leurs contradictions, leurs fardeaux. Notre Dieu, nous venons te demander pardon. Nous ne t'avons pas fait vraiment confiance. Nous avons douté de ta présence et de ton amour. Nous avons oublié tes promesses et tes exigences. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pardonne-nous, apprends-nous à vivre comme des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Fais-nous vivre comme des enfants de lumière. Retranche de nous ce qui ne t'appartient pas. Dirige-nous, éclaire-nous, fortifie-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. recevoir le pardon de Dieu, ce n'est pas recevoir une chance de plus de mettre sa loi en pratique, ni passer l'éponge sur nos faiblesses, ni se rassurer en disant que Dieu se laissera bien attendrir par nos prières. Recevoir le pardon de Dieu, c'est entrer dans une autre logique, celle où ce qui est décisif, c'est non pas ce que nous faisons, mais ce que lui fait. Non pas nos œuvres, mais ses œuvres. Non pas nos manquements, mais ses promesses. Et sa promesse, la voici. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Voilà, frères et sœurs, l'Évangile, la bonne nouvelle, sans condition, Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Il nous aime, nous accompagne, nous fait confiance. Que Dieu nous donne de vivre de son pardon qui libère et qui relève. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père, qui aime et qui crée. Je crois en Jésus-Christ, Seigneur et Serviteur, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui vient à nous, nous aime et nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous est laissé comme don de la grâce, qui appelle la foi et fonde l'espérance. Je crois que par l'amour, la vie finie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen.
Grâce.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Nous écoutons trois textes bibliques ce matin. Dans l'Évangile selon Luc, tout d'abord, au chapitre 7, les versets 31 à 35. C'était un épisode de suite à un envoi des disciples de Jean le Baptiste. Et c'est Jésus qui parle. À qui donc comparerai-je les gens de cette génération? À qui sont-ils semblables? Voici à quoi ils sont semblables. Des enfants assis sur la place publique et qui s'appellent les uns les autres pour dire: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes funèbres et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin et vous dites: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs, des taxes, des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Dans l'évangile selon Matthieu, maintenant au chapitre 12, à partir du verset 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Mauvaise et adultère génération qui recherche un signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. » En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. La reine du Sud se réveillera lors du jugement avec cette génération et elle la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Et puis, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 36, le jour de la Pentecôte, c'est la fin du discours de Pierre qui s'adresse à la foule et qui termine en disant « Que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » À la prière. Notre Dieu, toi qui nous donnes la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons. Tu es proche de nous. Donne-nous de vivre de cette parole. Je vous invite à chanter le cantique 240, les strophes 1, 2 et 3. Avant de méditer l'Écriture, nous prions. Oui, notre Dieu, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce de recevoir ta parole avec confiance, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle nous demande. Que cette parole, Seigneur, agissant en nous, ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Sauvez-vous de cette génération perverse. Eh bien, frères et sœurs, cette exhortation pour le moins radicale de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte a joué et joue encore un rôle considérable dans l'histoire. Alors, opposer la communauté chrétienne à la société dont il faudrait se garder, oui, pourquoi pas, mais en quoi et de quoi ? Car il ne nous est pas détaillé ici ce que serait une génération perverse, on pourrait traduire par tordue ou dévoyée. Avec quoi donc faut-il rompre pour être Église ? C'est une question qui touche à notre vie quotidienne, à nos engagements, à des choix de société. Nous allons par exemple être sollicités pour des élections. Et il est vraisemblable que, pour une part au moins, nos choix sont influencés par nos lectures bibliques. Alors, il se trouve qu'il existe dans les évangiles trois propos de Jésus sur sa mauvaise génération. Il y a le texte de Luc, avec la parabole des enfants qui ne veulent pas jouer. Il y a aussi dans l'évangile selon Matthieu cette génération mauvaise et adultère qui demande un signe et il ne lui en sera pas donné d'autre que celui de Jonas. Et puis il y a ces huit démons qui viennent en force envahir une maison purifiée, image de ce qu'il en ira pour cette génération mauvaise. La petite parabole des enfants interpelle les chrétiens et les églises. Ne sommes-nous pas enclins à être comme des enfants boudeurs qui refusent de jouer avec les autres enfants sur la place publique ? Ces enfants ne veulent participer à aucun jeu. Et c'est inquiétant parce qu'un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant malade. Ces enfants ne veulent participer à rien, ni au jeu de la noce au son de la flûte, ni à celui de l'enterrement avec celui d'un service funèbre. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des cantiques funèbres et vous ne vous êtes pas lamenté. Et c'est incroyable pour Jésus. C'est illogique. C'est absurde. Voici donc une première leçon contre la tentation de l'abstentionnisme. Attention à ne pas être une génération qui trouve des prétextes pour ne pas faire vraiment partie de la communauté humaine. C'est d'ailleurs ce que l'on reprochait à Jésus, sa liberté de comportement et ses fréquentations populaires. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et l'on dit que c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs de taxes et des pêcheurs. Il n'y avait pas chez lui, comme si souvent pour nous, d'un côté le sacré, de l'autre le profane. Et peut-être pourrait-on dire que chez lui, le sacré, c'est-à-dire là où Dieu est présent, se trouve justement dans la vie des hommes et des femmes de leur temps. Le sacré, cela se vit en bonne compagnie, dans la vie, les épreuves, les joies des hommes et des femmes de notre temps. Et en ce temps où une partie de la société pousse à ce que le sacré soit relégué dans la sphère du privé, de l'intime, nous nous souvenons qu'il ne faut pas opposer société terrestre et église, assemblée des saints. Le culte ne se limite pas à une cérémonie, c'est une attitude fondamentale. Le culte est autant dans la vie que la vie dans le culte. C'est pourquoi, par exemple, Jean Calvin avait simplifié la liturgie afin d'atténuer le contraste entre sacré et profane, de sorte que l'attitude cultuelle s'étende à toute la conduite, à toutes les démarches du chrétien. Donc ce premier élément, c'est la participation des chrétiens à la vie de la société. La mauvaise génération, nous dit Jésus, c'est celle qui ne veut pas jouer, excusez-moi l'expression, jouer le jeu. Deuxième élément, comment les chrétiens vont-ils participer à la vie de la cité? On pourrait penser que le propre des chrétiens, comme des autres cultes d'ailleurs, serait de demander l'intervention de Dieu pour la cité, pour y mettre du sien. C'est ce que demandaient à Jésus les gens de sa génération, sous la forme d'un signe, voire d'un miracle. La participation des chrétiens à la vie publique se concevrait bien sous cette forme, prier pour que des signes s'imposent à notre société, là particulièrement où la vie est difficile. Eh bien, une fois encore, la réponse de Jésus est étonnante. Car il qualifie de génération méchante et adultère sa propre génération qui demande des signes. Et il leur répond qu'aucun autre signe que celui de Jonas ne leur sera donné. Et Jésus fait ainsi référence à l'action du prophète Jonas, qui avait pour mission d'aller dire à Ninive qu'elle allait être jugée si elle ne changeait pas de politique au 7e siècle avant notre ère. Ninive était la capitale de l'Assyrie, en un seul mot, pays réputé pour avoir écrasé les petits peuples voisins. Or, très curieusement, dans ce livre du prophète Jonas, le roi et les habitants de Ninive vont écouter ce petit prophète étranger et changer de comportement. Et de la même manière, dit Jésus, c'est la reine du sud, du midi, de Saba, le Yémen actuel, autrement dit, une reine africaine et donc à l'époque païenne. C'est la reine du sud qui a fait preuve de sagesse, car elle s'est déplacée et elle a écouté. Il n'y aura donc pas d'autre signe que celui de Jonas, Jonas qui, fuyant ses responsabilités, a failli en perdre la vie, mais fut rendu à la vie pour sa mission. Eh bien, comment participer ? non pas en demandant à Dieu des signes, et encore moins des miracles, mais en accueillant nous-mêmes l'Évangile, qui est bonne nouvelle pour ce monde qu'il a tant aimé. Celui qui écoute l'Évangile reçoit le seul signe qui vaille d'être donné, reçu, c'est celui de Jonas, ce qui veut dire celui de Jésus-Christ mort et ressuscité. Enfin, un troisième propos de Jésus sur sa génération, c'est la suite de ses propos avec la petite histoire de huit démons qui reviennent, un démon qui a été chassé d'une maison, qui a été purifié, et puis il revient après avoir erré, il revient dans cette maison qui a été vidée, rangée, bien ordonnée, et ils sont huit à revenir encore plus mauvais. Curieuse histoire, par démon on peut entendre tout ce qui nous déshumanise. En participant activement à la vie de la cité, les chrétiens doivent se garder de l'illusion du nettoyage et du rangement, de la propreté, voire de la pureté. En participant au débat et à la vie de la cité, ils ne sont pas à l'abri de céder à des simplifications abusives. Attention donc à ne pas être une génération qui range ses valeurs en assignant une place à chaque chose et à chacun. Attention de ne pas qualifier de Dieu ses propres démons intérieurs, particulièrement ceux qui désignent l'extérieur, l'étranger, comme le bouc émissaire de nos problèmes de vie communautaire. Et c'est pourquoi notre Église protestante unie de France appelle à attester de notre foi dans le dialogue et la confiance, et non pas en assénant des vérités toutes faites. Oui, dans nos débats ecclésiaux, comme ceux dits de société, faisons-le en refusant les positionnements a priori, qui n'écoutent plus la Bible, qui n'écoutent plus le témoignage intérieur du Saint-Esprit et qui n'écoutent plus l'autre. Mauvaise génération donc que celle qui demande des signes au lieu d'écouter, que celle qui boude les joies et les peines des hommes en ce monde, que celle qui place leur propre valeur au-dessus de tout. Et en méditant tout cela, j'ai pensé à une génération d'aujourd'hui qui se dit elle-même perdue. Il y a une quinzaine de jours ont été publiées les premières analyses d'une très vaste enquête à laquelle 210 000 jeunes majeurs ont répondu en ligne, ce qui est tout à fait exceptionnel pour comprendre toute une partie de ce qu'on appelle des jeunes majeurs 18-25 ans. Interrogés sur la façon dont ils se perçoivent, ces jeunes qui ont répondu, ce ne sont pas tous les jeunes, mais tout de même 210 000 jeunes, ces jeunes que notre société a baptisés elle-même de génération Y ou Internet, disent que ce sont les mots de génération sacrifiée ou génération perdue qui leur viennent le plus souvent à l'esprit. Génération perdue, sacrifiée. C'est eux-mêmes qui le disent, avec d'autres aussi qualificatifs, mais ce sont les deux qualificatifs qui reviennent le plus souvent. Et pourtant, ils aiment leur famille, résultat de l'enquête. Ils disent que le travail est important dans leur vie. Ils s'engagent dans un militantisme de terrain. Mais ils ont majoritairement le sentiment de ne pas avoir de place dans cette société, de subir et de ne pouvoir faire leur preuve de montrer qui ils sont. On ne s'étonnera pas de ce qu'ils ne croient plus à la politique, et ce n'est pas l'actualité de ces derniers jours qui va inverser cela, ni qu'il se méfie à 60% des institutions religieuses. Alors je me suis dit, cette génération qui se dit elle-même perdue, comment faire pour qu'elle se sente retrouvée? Eh bien, frères et sœurs, c'est à nous, avec nos faibles forces, mais avec ce que nous sommes, à de témoigner de ce que nous avons reçu et de ce qu'ils peuvent recevoir. Le contraire de l'abstention, qui est défiance. Le contraire du signe qui fait preuve, le contraire du mot d'ordre qui s'impose, c'est la confiance donnée. Et c'est sans doute cela qui pourra dire, faire dire, heureuse génération, celle qui participe à la vie, la cité, parce que c'est dans ce monde, en Jésus-Christ, que le Dieu vivant est venu habiter et côtoyer l'humanité. C'est dans ce monde que tu as des prochains à aimer. Amen. Merci. Nous chantons maintenant le cantique 308, strophes 1, 2 et 3, « Confie à Dieu ta route ».
Prenons place. Nous avons ce matin le plaisir donc d'accueillir le pasteur Bertrand de Cazeneuve, qui est président du Conseil de la région protestante réformée, Île-de-France. Et peut-être que Bertrand, tu pourrais nous dire d'ailleurs un petit mot sur cette région, sur ce qu'elle englobe, je pense. Oui. Il faut juste.
Un, deux.
Voilà, merci James. Oui. Écoutez, je vous apporte les salutations du Conseil régional. Conseil régional de l'Église protestante réformée, Église protestante unie de France, mais le synode réformé. Ce sont 18 personnes, 10 laïcs et 8 pasteurs qui ont été élus il y a un an, d'ailleurs jour pour jour, et ce pour 4 ans, et qui donc viennent d'à peu près toutes, enfin en tout cas, qui représentent les différentes églises de la grande région Île-de-France, qui constitue notre région, soit 69 paroisses. Alors c'est une région qui est assez vaste, parce qu'elle dépasse beaucoup le cadre de ce qu'on appelle la région parisienne et même l'Île-de-France, puisque à l'ouest elle va Chartres et Dreux, au nord elle va pas très haut, Cergy-Pontoise, et puis puisque Beauvais et Creil sont partis en région Nord-Normandie. Mais par contre à l'est et au sud elle va jusqu'à Troyes, vous voyez, l'Aube, et puis jusqu'à Nevers, la Nièvre. Et donc ça fait une très vaste région qui est à la fois très concentrée en personne évidemment sur Paris et Paris intramuros, mais avec une grande dissémination. Et un des soucis particuliers que nous pouvons porter, que nous portons mais qu'il faut porter, c'est la situation de vacances pastorales de 5 de ces églises, à Cône-Sancerre, Montargis, Auxerre, Troyes, voilà autant de paroisses qui actuellement n'ont pas de pasteur. Et c'est donc pour le conseil régional, mais pour tous ceux qui, pour nous tous, solidairement, un souci. Alors en disant cela, je ne veux pas dire que nous avons un manque flagrant de pasteurs, puisque actuellement nous avons 68 pasteurs, ce qui est un des chiffres assez élevés par rapport à ces dernières années, et qu'on nous annonce encore 2 ou 3 pasteurs proposant cette année, ce qui fait qu'il faudra bien financièrement faire un effort, mais on se réjouit d'accueillir les ministres que le Seigneur nous donne. Le Conseil régional suit donc particulièrement les situations comme celle-ci, les conflits malheureusement de paroisse, ça arrive, mais se réjouit aussi avec vous d'un certain nombre de projets, de réalisations qui ne sont pas des projets, comme par exemple à Aubervilliers, la transformation du foyer protestant, qui était en quelque sorte sous la tutelle du conseil régional, en église, en paroisse locale, la création d'une église à Étampes, hier la création d'un nouveau lieu de culte à Marne-la-Vallée, au Val d'Europe, en plein cœur du centre commercial, à l'initiative des églises de Lagny, Chelles, Marne-la-Vallée, un projet depuis 20 ans, 30 ans, se dire, mais à Marne-la-Vallée, quelle implantation d'église. Et puis, depuis quelques mois, 2 pasteurs missionnaires, entre guillemets, mais qui sont chargés sur Créteil de développer une vie d'église, puisque nous sommes très très peu présents à Créteil, et c'est quand même une grande préfecture. Voilà tous ces projets qui sont portés par le Conseil régional en votre nom, puisque ce sont des hommes et des femmes qui sont issus des églises de la région, des paroisses de la région, et qui donnent là quelques années de service. Nous les portons donc particulièrement dans la prière, parce que ce sont des lourdes charges, mais on est heureux d'avoir des lourdes charges. Ce qu'il faut, c'est d'avoir le dos solide, bien sûr. Merci, Jean.
Merci Bertrand pour ce panorama de la région à laquelle nous appartenons. Alors, dans notre vie plus locale, quelques informations sur le déroulement de notre semaine, à commencer par cet après-midi le concert de l'Armée du Salut qui aura lieu ici même à 16h. C'est la fanfare de l'Armée du Salut et c'est un événement qu'il mérite de vivre au moins une fois dans sa vie. Mardi à 20h, ce sera dans le cadre de nos rencontres Société en débat, une rencontre sur les questions financières. Est-ce que les crises financières sont des convulsions? Est-ce que c'est l'état naturel? Et c'est Alain Moineau qui, outre le fait d'être notre vice-président de conseil presbytéral, est aussi un ancien dirigeant de banque et un expert financier qui animera cette rencontre Salmono à 20h, mardi. Jeudi, c'est la répétition de Votre Cœur, dirigée par Fabien Aubé, que nous avons le plaisir d'avoir ce matin. Et voilà, vous participez à notre ravissement liturgique. Merci donc. Samedi à 10h, c'est le groupe d'hébreux bibliques animé par Gilles Castelnau. Dimanche prochain aura lieu certes notre culte à 10h30, mais au préalable, il y a une rencontre d'information pour préparer l'Assemblée Générale. Je vais peut-être laisser la parole à Francine, notre trésorière, pour donner quelques indications sur cette rencontre et puis peut-être aussi sur l'Assemblée Générale à venir le 30.
Oui.
Oui, ça marche.
Ça marche. Vous avez reçu certainement la convocation à l'Assemblée qui a lieu le 30 mars à l'issue du culte. Petite précision, c'est le jour du changement d'heure. Non, ne vous trompez pas dans les horaires. Comme chaque année, une semaine avant, donc la semaine prochaine, où il y a une réunion d'information dans la salle Roberti en face de 9h30 à 10h30. Pour vous donner toute information sur les comptes. Et surtout, il y aura des membres de la commission des travaux qui vous parleront d'un point que vous avez à l'ordre du jour et qui n'est qu'un débat consultatif. Mais quelle est votre position sur la restauration de la grande sacristie? On a besoin de vos avis pour savoir quels sont genre de projets on peut développer ou au contraire ne pas poursuivre. Dans l'Assemblée générale, beaucoup, 260 convocations ont été envoyées par mail. J'espère qu'ils sont tous partis. À notre avis, aucun n'est revenu. Vous pouvez soit les éditer, les consulter sur vos portables ou vos ordinateurs. J'ai mis déjà des pouvoirs à l'entrée sur la l'urne. Si certains savent déjà qu'ils ne seront pas là, vous pouvez prendre des pouvoirs, les remplir et nous les mettre dans l'urne. La semaine prochaine, des documents papier seront à votre disposition et le jour de l'Assemblée également, des documents papier seront à votre disposition pour vous éviter d'imprimer la totalité des points de l'Assemblée. Dans cette Assemblée, en dehors des points courants et habituels, de l'approbation des comptes, du rapport moral, vous avez deux points un peu spéciaux cette année. Un point qui vous demande d'approuver une correction des statuts. Il y a eu des fautes de frappe dans les statuts. Au lieu de laisser perdurer cette anomalie, on vous demande de vous prononcer sur cette correction, qui ne semble qu'une correction. Et le commissaire aux comptes, la compagnie des commissaires aux comptes, nous a demandé de changer l'intitulé du commissaire aux comptes titulaire, de prendre la société, la suite, la société dans laquelle est notre commissaire aux comptes, Denis Duchesne, de façon à ce que si jamais le commissaire aux comptes titulaire avait un problème de santé, nous ne retrouvions pas sans commissaire aux comptes. Donc aussi là, une résolution purement formelle, mais sur laquelle il faudra se prononcer. Voilà, comme d'habitude, à l'issue du culte, un buffet vous attendra de l'autre côté Salmono et on pourra poursuivre les discussions autour d'une assiette ou d'un verre fraternel. Voilà.
Dans la série des bonnes nouvelles mineures, mais pas sans importance, sachez que l'oratoire est champion de France du comptoir de librairie. J'ai eu les chiffres de la librairie protestante, nous sommes en tête de tous les comptoirs de paroisse. Donc, il ne faut pas baisser d'intensité. En sortant, vous prenez un petit ouvrage, c'est bon pour notre comptoir et surtout c'est bon pour la librairie protestante qui a besoin d'augmenter son chiffre d'affaires de 10%. 10%, c'est 3 ou 4 livres de plus chaque jour. Donc, quand vous êtes dans le quartier de Saint-Sulpice et qu'une envie de livre vous prend, très bien, vous allez à la procure, vous regardez, vous notez les titres et ensuite vous les achetez à la librairie protestante. Bien. Il y a notamment le livre sur les temples réformés et les églises luthériennes. Hélène Guicharneau est là, elle peut vous faire une dédicace. Et Bertrand de Cazeneuve, ayant rédigé la préface avec l'inspecteur ecclésiastique, il peut aussi vous faire un petit autographe. Ça, c'est l'argument de vente supplémentaire. C'est maintenant le temps de l'offrande. Eh bien, que ce soit un temps de joie et de reconnaissance. Au moment de partager ce repas fraternel, nous éprouvons le besoin d'élever notre prière et notre cœur vers le Seigneur. Oui, c'est pour nous bonheur et joie de te louer, Dieu notre Père, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. Et c'est pour nous l'évangile de l'émerveillement, que toi, Seigneur, tu sois notre Père, que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde, donné à notre faim de vivre, donné à notre soif d'espérance, et que le Saint-Esprit demeure au plus secret de nous-mêmes. C'est pourquoi nous t'adorons et nous te chantons. Amen.
Pendant que Jésus et les disciples mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance ». Qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu.
Nous nous unissons dans la prière. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ. De sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi. Afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toute chose nouvelle dans notre cœur, dans le monde. Donne-nous d'être présents dans ce monde, d'y agir, d'y faire résonner ton évangile, d'y incarner ton espérance. Pour l'heure, fais que cette espérance puisse s'accomplir à travers ce que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et que nous te disons en communion avec tous les membres de ton peuple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, frères et sœurs, le repas du Seigneur. Qui peut participer à ce repas? Mais bien entendu, toute personne qui se sent appelée à y participer. Nous sommes toutes et tous les bienvenus, chacun selon sa propre conscience. Alors, pour que ce repas reste fraternel, nous ferons des tablées successives, nous prendrons place autour de cette table de communion. Pour qu'il y ait une sorte de fluidité, nous vous invitons à vous rendre à cette table par l'allée centrale et ensuite, lorsque nous aurons communié, à regagner vos places par les allées latérales. Le Seigneur se tient à notre porte et il frappe. Si vous entendez sa voix, que vous lui ouvrez la porte, il entrera chez vous, il prendra la scène avec vous et vous avec lui. Oui, frères et sœurs, le Seigneur frappe à votre porte et venez, car tout est prêt. Frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
Frères et sœurs, la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandue pour nous.
Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Je l'accompagnerai bien d'un mot d'exhortation, mais le texte de la prédication du pasteur Bertrand de Cazeneuve est à votre disposition, il tiendra lieu d'exhortation. À cela s'ajoute cette parole qui nous ouvre un avenir. Oui, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.